Actu SF, les podcasts.
Bonjour, merci pour ce silence. Merci d'être venus nombreux. On va commencer. C'est pas grave. Alors, notre conférence. Faire des jeux vidéo autrement ou faire d'autres jeux vidéo. On va essayer de discuter dans cette heure-là de c'est quoi faire un jeu vidéo normalement et c'est quoi faire un jeu vidéo de manière différente pour nous et pour les personnes qui sont ici avec moi. On va commencer par présenter, enfin je vais les laisser se présenter et on va faire un petit tour de table rapidement et puis après on va commencer par essayer de discuter ensemble de c'est quoi faire un jeu normalement pour nous, même si on a certains qui sont sur le premier et justement en espérant ne pas être d'accord tout de suite et puis débattre un peu de ça avant d'enchaîner sur c'est quoi faire un jeu vidéo différemment pour nous et voilà. Et après, on va laisser un petit peu de questions. J'espère que, justement, nos débats susciteront des questions. On va commencer par toi.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Laurent Checola. Moi, je suis un ancien journaliste et cofondateur depuis maintenant un peu plus de 2 ans d'un studio qui s'appelle Label Games. Et notre pitch à nous, c'est de faire des jeux à enjeu. Donc, on va en parler là tout à l'heure.
Bonjour à tous, moi c'est Rémi Gourirec, je suis un ancien auteur de BD, j'ai arrêté la BD pour passer aux jeux vidéo, et je fais donc des jeux vidéo plutôt courts, je viens plutôt du format Game Jam, donc des jeux vidéo faits en 48 heures, même si je fais des jeux un peu plus longs, j'ai tendance à, là en 4 ans j'ai dû créer 25 jeux vidéo.
Voilà. Et gagnant à Récidive
j'ai gagné les 4 dernières Game Jam. Voilà.
Bonjour, Julia Molendikos-Caudal. Donc, moi, je viens d'un petit studio indépendant qui s'appelle Clocks and Wings. Nous, on s'est spécialisé dans la réalité virtuelle avec la volonté d'y inclure le maximum de gens, y compris les gens qui ne sont pas des gamers hardcore.
Bonjour, Antonin Dedon, créateur du studio Subtle Games. On est sur notre premier jeu qui vient de sortir. Et si on se spécialise dans un truc, ce serait des jeux avec un fort message derrière.
Donc, pour commencer vraiment la discussion, avant de savoir faire d'autres jeux vidéo, c'est savoir c'est quoi faire simplement un jeu vidéo normalement, s'il y a une normalité dans ce média, qui est déjà, en général, entre nous, on a déjà du mal à définir qu'est-ce qu'un jeu vidéo, alors définir comment les faire de manière unique, ça va être difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer tu veux te lancer ?
Nous, dans l'industrie dite classique, on réunit des compétences, game design, sound design, programmation bien sûr, et puis on se réunit pendant plusieurs mois et on part sur un projet, on essaie de réaliser quelque chose. Voilà.
Alors du coup ça c'est pour le faire, et ce qui est intéressant aussi c'est en général c'est pourquoi on le fait, parce que ce qui définit en général l'industrie du jeu vidéo c'est la raison pour laquelle on fait, c'est quoi l'initiative d'un jeu. Est-ce que c'est un produit ? Est-ce qu'on remplit une demande, une cible ?
Oui, classiquement, on va chercher à atteindre, en tout cas, ce qu'on imagine dans le jeu vidéo, on va chercher à atteindre le joueur qui va acheter un jeu et qui va y jouer sur son Steam ou sur sa PlayStation avec une manette. Là, je pense qu'on est aussi un certain. On n'est pas forcément dans ce cadre-là, à part Antonin. On n'est pas forcément dans ce cadre-là. La destination n'est pas forcément la même.
Même toi, je pense que de toute façon, ton but, c'était pas forcément d'atteindre une cible particulière.
Non, effectivement. Ouais.
Dans tous les cas, nous, on vient plus de l'indépendant, ou même pour toi, je pense que tu pourrais te définir comme indépendant. Donc dans tous les cas, évidemment, nous, on va pas être de cette école-là. Hein. On va pas être de l'école de « on va faire un jeu vidéo pour faire un produit ». Il semblerait. Et c'est vrai qu'à la base, de toute façon, on a quand même l'idée que la plupart des jeux, ou en tout cas ceux que vous avez l'habitude, je pense, dans le public de jouer, ont été faits pour remplir une mission, plaire à un certain type de public. Et donc, du coup, à l'initiative, on a un produit dont le but est de vendre, tout simplement. Donc, pour vendre, il faut plaire à une cible. Et donc, toute la suite est finalement une réponse à ce besoin-là. À cette cible-là ?
Clairement, il faut un matching entre les compétences dont on a besoin et les gens qui correspondent à des profils. Enfin, on en arrive finalement à une logique de ressources humaines.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que bah, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, la cible gamer est vraiment en train d'évoluer, de changer, de se diversifier et d'aller vers des expériences dites alternatives. Donc c'est quand même une des raisons pour lesquelles on se dit que même si on fait des jeux différents, il y a un public pour ça. C'est pas contradictoire de viser un public différent, mais sans atteindre un mass market, bien sûr. Quoi.
Bah, j'espère que dans la salle, il n'y a pas que des joueurs de Call of Duty. Je pense pas quand même, on n'est pas n'importe où, on est aux Utopiales, on va avoir quand même un public de qualité. Ça va, vous n'avez pas encore les blagues sur le communisme, ça viendra après. Bah, en fait, finalement, on est plutôt d'accord, mais on est de toute façon en général plus d'accord sur les définitions pour les autres que les définitions pour ce que nous, en général, on fait. Mais... et du coup, en fait, finalement, bah, c'est quoi votre façon de faire des jeux vidéo? Même pour la plupart, on fait pas forcément ce qu'on appellerait des jeux classiques. Je sais pas, par exemple, Antonin, c'était quoi ta façon de faire un jeu? C'était quoi l'initiative de ton jeu?
L'initiative de mon jeu, c'était juste de réaliser mon rêve et de faire un jeu qui me parle. En faisant référence aux jeux qui m'avaient passionné dans mon enfance, par exemple. Et je ne me suis vraiment pas posé la question de quelle est la cible de mon jeu. Enfin, je me la suis posé au bout de 2-3 ans, quand j'ai commencé à penser à la suite.
Ah, on fait
mais à l'initiative, c'est vraiment... j'ai envie de faire un jeu comme ça parce que ça me fait rêver personnellement, parce que j'ai envie d'y mettre mes idées, de faire passer tel message. Et puis par la suite, j'apprends à connaître ma cible. Parce que...
Ça, on retrouve souvent ça dans les jeux indés, de ce qu'on vient me raconter ou des échanges qu'on a. Souvent, la plupart des indépendants, en différence aux gros studios, font des jeux avant tout pour eux, qui leur plaisent et qui leur parlent par rapport à ce qu'ils ont envie de transmettre. Et après, se pose la question de à qui je vais le vendre, à qui ça va intéresser. Quoi. C'est pas pour toi si c'est pareil.
Alors, nous, on est parti d'un constat assez différent, qui est pourtant le truc qui est obligé de nous frapper. C'est que nous, on est une grosse équipe de 2. Donc clairement, on n'ira pas concurrencer Ubisoft, on n'a pas des gens qui vont travailler avec des budgets colossaux, des millions pendant des années, on voulait faire un jeu tout de suite. Donc on a commencé par se recentrer sur comment on joue et qu'est-ce qui va faire notre joueur et comment on peut très simplement l'amener à prendre du plaisir tout de suite, sans se prendre la tête. Et du coup, de là où on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire quelque chose vite, quelque chose qui soit jouable et super sympa, vite à se dire, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'avoir une expérience de jeu qui fonctionne autant avec des enfants de 6 ans qu'avec des gens, enfin, on a testé au-delà des 70 ans, et on arrive à faire enfourcher des casques de VR à des gens qui n'ont jamais touché à ça, voire qui n'ont même jamais touché à une manette de leur vie. Et du coup, on s'est vraiment recentré sur le plaisir de jouer. Les graphismes, c'est chouette. D'avoir un personnage qui va déambuler dans une rue magnifique où le détail, on va pouvoir s'approcher à un niveau de zoom qui est juste démentiel. On va arriver sur du photoréalisme. Ok, mais ça, nous, on n'est pas capable de le faire. Enfin, si, on pourrait, mais il faudrait qu'on recrute drôlement et puis qu'on ait un sacré budget. Mais nous, on ne sait pas le faire. Donc, la question, c'était de se recentrer sur qui est-ce qui est tout de suite crédible et qu'est-ce qu'on va pouvoir, nous, apporter au jeu pour que, finalement, on l'ait fait autrement et que ça marche aussi bien.
De mon côté, ça vient surtout d'un désir de création. Moi, je prends le plaisir dans le temps de création. Donc, je fais plein de choses différentes. Donc, c'est d'aller créer, de me poser pour faire une game jam ou même travailler une semaine sur un petit défi technique. Et après, dans le nombre de jeux que je fais, il y a des choses effectivement qui vont ressortir comme des choses extensibles où je peux apporter une profondeur supplémentaire. Et c'est cela que je vais pousser un peu plus. Ou des jeux où justement j'identifie une cible un peu plus claire et une envie personnelle qui correspondrait. Il y a des jeux effectivement où je vais passer 3 mois, 6 mois, là on se lance sur un jeu sur lequel je serai sûrement 1 an, mais globalement je vais continuer de faire plein de petits jeux comme ça et je fonctionne comme ça c'est des petits temps de création que je renouvelle en permanence et il y a des petits trucs qui pop. Ce qui ne veut pas dire que les choses qui ne sont pas prolongées ne sont pas bien. En fait, c'est juste qu'ils ont le droit de vivre juste sur ce petit temps-là et être des petites expériences de jeu.
Mais toi, la base de la volonté de créer, c'est justement la volonté de créer pratiquement uniquement. C'est juste
c'est
le fait
ça.
De j'ai envie de passer le temps à le faire. Et après, ce que ça donne, ça donnera ce que ça donne. Et,
Voilà, moi j'ai passé j'ai une série en BD de 200 pages par album. Je sortais de ça avant de me mettre aux jeux vidéo, et en fait c'était pour ceux qui connaissent un peu la BD, c'est physiquement très très difficile, très mal payé, et donc c'était très difficile, c'est très très désagréable. On travaille très longtemps sur un projet qui sort, qui a une fourchette de visibilité très courte, et là le fait de pouvoir travailler sur des projets beaucoup plus courts qu'on rend disponible le lendemain de l'avoir fait, ou même qu'on rend disponible et qu'on améliore tout en le rendant disponible, ça m'a changé le plaisir de création. En fait, j'ai retrouvé un plaisir à juste créer et pas à produire quelque chose pour beaucoup plus tard. Donc moi ça vient vraiment là, je trouve que j'y retrouve vraiment dans le jeu vidéo cette facilité là.
Et du coup, la game jam est vraiment pour toi le meilleur exercice, parce que justement, on est dans cette espèce de temps court où on va juste se concentrer sur le fait de faire.
Ouais, c'est ça. Et puis ça oblige à trouver des nouvelles idées. C'est-à-dire que on fait pas une game jam pour faire un jeu qu'on a déjà fait. Donc on est obligé de trouver. Au bout d'un moment, là, je me retrouve avec des moments où je dois aller un peu plus loin. Donc je commence à faire des game jams où je finis pas forcément les jeux parce que j'ai tenté des trucs un peu difficiles à finir, ou des idées un peu trop vagues, mais voilà, j'essaye d'avoir effectivement, ça me met dans une position que moi j'aime, de pression par rapport à juste un petit thème, et puis moi faut que je sorte quelque chose d'un peu nouveau, ou que alors j'emmène des gens avec moi en game jam, des auteurs de BD, des illustrateurs, ou que je trouve une idée qui leur permettra de travailler, de mettre en valeur leur travail. Enfin voilà, il y a aussi ça qui joue des fois.
Eh bien, bah nous en fait, quand on a créé ce collectif qui s'appelle Label, c'était il y a à peu près 2 ans, on voyait qu'il y avait un décalage entre ce que nous on estimait être important dans le médium, et on voyait qu'il y avait des sujets qui étaient plus ou moins non traités. Enfin, là, il y a l'année dernière, par exemple, il y a un jeu comme Enterre-moi mon amour qui est sorti sur la crise des migrants. Et il y a encore 2-3 ans, ça aurait paru aberrant qu'il sorte sur un store. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des thématiques où on avait vraiment l'impression qu'elles ne rencontreraient soi-disant jamais un public. Voilà, c'était un peu le constat de départ. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire l'inverse. On va prendre une thématique qu'on estime sous-représentée. Pourquoi ? Parce qu'elle est engageante, elle est forte. Et on va essayer de la soumettre à un public et de voir s'il y a des vrais retours. Et en fait, c'est comme ça qu'est né notre premier jeu qui est en cours de production sur le génie génétique. Donc ça tombe très bien parce que aux Utopiales, on est sur le thème du corps aujourd'hui, et donc voilà, on a tout de suite eu la question, mais eugénisme égale nazi, etc. Donc non,
j'aurais pas pensé pouvoir la placer celle-là.
Et voilà, raté. Ça c'est fait. Donc ça c'est le point de départ. Et une fois qu'on analyse vraiment le jeu, voilà, le débat se lance sur le thème. Donc on essaie vraiment d'utiliser ce médium jeu vidéo pour qu'un public qui n'est pas forcément au départ réceptif à une thématique qui peut paraître hors jeu, se l'approprie, et que ça crée du débat et de la réflexion.
Et donc, comment vous avez, qu'est-ce que vous avez trouvé pour intéresser aux gens au nazisme ?
Non, pas au nazisme. Non, on fait réfléchir les gens sur cette notion d'eugénisme, et justement en lui donnant le pouvoir de créer. Et donc, au départ, il va tâtonner, le joueur va tâtonner, puisqu'il va créer des personnages en activant des gènes sans savoir ce qu'il fait. Donc, au départ, il y a cette ingénuité de découverte. Et après, par contre, quand il identifie les gènes, il sait ce qu'il fait. Donc, c'est littéralement de l'eugénisme. Mais on ne lui dit pas c'est bien ou mal de faire telle ou telle chose. Et c'est ça la liberté qu'on laisse au joueur, cette liberté de choix.
Alors justement, par rapport à cette liberté de choix, finalement, en général, la plupart du temps, quand on choisit le jeu vidéo, c'est pour la notion d'interactivité. C'est quand on est un créateur, parce que je pense qu'autour de cette table, on estime plus être des auteurs que des techniciens. Voilà. Donc on va se définir comme ça, de manière large. On a cette volonté quand même d'utiliser un médium qui est plutôt connu pour justement l'interaction et le fait de donner à faire quelque chose. Et justement, faire des jeux autrement, c'est faire justement peut-être d'autres moyens d'interagir et d'utiliser juste le fait de je prends une arme, j'agis et peu importe les répercussions. Et voilà. Donc il y a aussi cette espèce d'interactivité qui est au centre de nos réflexions.
Alors, là-dessus, nous, on s'est posé la question de la réalité virtuelle en voyant se développer les consoles de salon et en se disant, est-ce que nous, la VR de canapé, ça nous intéresse réellement ? La réponse a été immédiatement non. Nous, on a envie que les gens, ils bougent.
Alors, qu'est-ce que tu définis par VR de canapé ?
Alors, la VR de canapé, bah, c'est j'ai mis mon casque et puis bah, je vais jouer à un jeu qui n'engage pas de mouvement. C'est-à-dire, bah, on va faire un truc. Et j'irais même, allez, soyons violents, que finalement, prendre sa manette et faire ça pour faire du dessin, c'est toujours de la VR de canapé. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, notre premier jeu qui s'appelle En haut, donc qui sera testé d'ailleurs juste à côté, je pense qu'on doit être en place dans pas très longtemps, c'est justement un jeu de déplacement qu'on a voulu simple, donc il n'y a pas de manette. C'est en fait la position de la tête qui définit la position du corps, puisque c'est le casque et les capteurs. Et on progresse en fait en hauteur, puisque c'est pas le roux. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on va reproduire en jeu le réel déplacement physique. Donc c'est comme ça qu'on engage nos joueurs. Et c'est toujours un vrai plaisir. Et là, c'est vraiment le plaisir de l'indépendant qui crée son jeu et qui va après le présenter lui-même. Ça, je pense que c'est vraiment un truc de voir les joueurs jouer et s'éclater avec nos jeux. Je pense que rien que pour ça, on se dit on a quand même de la chance de voir les gens sourire, sauter partout. Enfin, parce que nous, ça finit par faire sauter aussi un peu. Voilà, faudra venir essayer, hein, c'est rigolo. Voilà. Donc voilà, je sais plus où je suis partie, j'ai digressé. On était parti sur quoi ? J'ai digressé.
Ouais, faut laisser faire.
Bref, voilà, m'arrête.
Même si tu es dans un jeu peut-être plus classique que ce que font tes collègues sur la table, mais
ouais, classique et en même temps qui se démarque quand même pas mal, je pense. On avait vraiment la volonté de proposer un jeu qui est différent et avec une forte thématique, comme tu disais. À l'époque où on a commencé à travailler sur le jeu, il y a 5 ans en tout cas, c'était assez sous-représenté, les jeux qui parlent plutôt d'écologie. Aujourd'hui, on en voit quelques-uns, mais c'est encore assez rare. Et c'est vrai que dans notre jeu, le message derrière, c'est d'expérimenter l'impact d'une société humaine sur un environnement sensible. Et c'est vrai que même si le message il n'est pas forcément plaqué d'entrée de jeu pour éviter d'effrayer les gens qui seraient réfractaires, et ben, en fait, derrière, on va vraiment l'expérimenter.
C'est une expérience où tu lances le joueur sur une zone vide et puis justement il doit se développer et voir vraiment son impact en direct, le jeu réagir à lui.
Ouais, c'est ça. Bah, du coup, on dirige un groupe de naufragés qui arrivent sur une île déserte et qui vont essayer de reconstruire leur village à partir de zéro. Et bon, au début, on reste dans la survie, donc c'est assez. On se concentre là-dessus, on est content. Et quand on commence à être un peu confortable à construire des gros bâtiments, on se rend compte que la nature, ça l'impacte quand même beaucoup et qu'il va falloir peut-être faire attention. Si on creuse une carrière, ça laisse un gros trou au milieu de l'île, c'est peut-être pas l'idéal. Si on pêche toujours au même endroit, il ne va plus y avoir de poissons au bout d'un moment, donc c'est pas non plus très rentable. Et je parle même pas des végétaux qu'on peut faire disparaître par mégarde si on n'y prête pas attention.
Enfin, ce que tu décris, c'est super important, c'est que quand c'est un jeu à message, entre guillemets, l'idée c'est de pas le plaquer de façon hyper obvious pour que qu'on vous martèle un message. Enfin, il faut que ce soit induit dans la mécanique de jeu. Enfin, je pense que vous connaissez un collectif italien qui s'appelle La Mole Industria, qui fait plein de jeux politiques engagés. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder ce qu'ils font. Et ils ont vraiment commencé par un jeu qui s'appelle McDonald's Video Game, qui est une satire d'un restaurant McDonald's, mais où vous jouez comme dans un jeu de gestion. Donc là, le message, il est super évident, parce que vous voyez, vous partez d'un champ que vous allez ultra polluer, ensuite vous avez du marketing, de la vache folle, enfin c'est la totale, quoi, si vous voulez. Mais au fur et à mesure, leur gameplay se sont affinés, parce que c'est le jeu coup de poing. Au départ, c'est intéressant, c'était au début des années 2000, c'était bien de marquer le coup. Mais c'est vrai que maintenant, en termes de quand on fait des gameplay, enfin c'est quand on veut faire passer un message, il faut vraiment que ça passe par le gameplay. Et je sais pas si vous avez incarné ce douanier. On parlait des communistes tout à l'heure, mais dans une république dystopique qui s'appelle Papers, Please. Donc ce jeu-là aussi, pareil, je vous le recommande vraiment. Et en termes de gameplay, est-ce qu'on pouvait imaginer qu'on allait incarner un douanier, quoi? Enfin, c'est quand même fou. Et c'est vous qui contrôlez les visas et tout est décrit de façon complètement immersive dans l'ambiance dans laquelle vous êtes immergé. Vous avez de la pression sociale de vos autorités, etc. Mais tout ça dans un gameplay hyper simple. Donc c'est ça qui est fort dans ce médium, quoi.
Et je trouve ça important enfin, si, moi ça me dérange quand mon jeu est étiqueté écolo ou ce genre de choses, parce qu'on cherche vraiment pas à être moralisateur. Notre but, c'est juste de proposer un contexte pour expérimenter, et dans un contexte qui est justement le plus réaliste possible.
Pour ce qui est des jeux à message, c'est vrai qu'on a toujours tendance à nous essayer de plutôt prendre l'inverse, de dire on prend pas le message, on prend à l'inverse, on prend la situation qu'on a envie de traiter nous, on la donne dans la, entre les mains des joueurs, et le joueur décide et voit justement ce qu'il fait, plus expérimente pour qu'il arrive lui-même à sa propre conclusion et sa propre morale. Et du coup, c'est un peu ce que tu développes pour toi, de leur dire bon bah essayez, puis vous verrez justement ce que ça représente et ce que ça fait.
C'est vrai que même dans les jeux narratifs où il y a des choix conséquences, on est vraiment maintenant dans ces zones de gris, et heureusement, parce que sinon, effectivement, on sait très bien, nous, dans la vie réelle, que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc un jeu, s'il retranscrit pas ça, maintenant, il devient complètement inopérant. Ouais.
J'ai une question pour toi, du coup, sur ce jeu. Tu gères comment cet aspect-là en termes de game design, le fait de, sans limiter le joueur, Tu veux pas forcément favoriser justement ce que tu pourrais trouver moralement discutable. Et comment vous avez résolu cet aspect-là? Et d'ailleurs, Antonin aussi, tu dois avoir cette question-là qui se pose.
Sur le Eugenix, oui. Par exemple. Oui, bah, Eugenix, effectivement, c'est... Alors, on a un choix de gènes, un pool de gènes. Donc, vous avez des gènes complètement... Enfin, on n'est pas du tout dans quelque chose de réaliste, hein, comme vous pouvez imaginer. On est vraiment dans du Docteur Folamour, hein, pour comparer à ce qui existe au cinéma, quoi. Donc, c'est totalement... Enfin, c'est des gènes absurdes. Enfin, il y a une partie de gènes physiques et une partie de gènes psychologiques, mais qui correspondent pas, bien sûr, à la réalité. Donc, techniquement, le joueur peut cocher toutes les cases s'il a envie. Mais enfin, c'est comme dans Animal Crossing, par exemple, qui est un jeu Nintendo, kawaii, etc. Bah, dès qu'on donne les outils, les gens vont s'amuser à le détourner, et ils ont fait des camps d'internement de petits animaux, quoi. Voilà. Donc voilà, dès qu'on laisse la liberté aux joueurs, on sait qu'on va avoir ça. On la favorise pas, mais elle est possible. Voilà.
On sait tous que de toute façon, dans Oxygen Not Include, on enferme toujours nos duplicants dans une chambre à gaz pour essayer au moins une fois. Non?
Et dans GTA, on tire sur tout le monde, et ainsi de suite. Voilà.
Ce côté expérimentation, où on ne veut pas trop savoir ce que nos joueurs font avec nos jeux, on ne veut pas être responsable ou jugé pour ça. Est-ce que toi, tu mets un peu aussi, est-ce que tu as, plus que aussi, parce que tu as parlé de ton acte, le fait que tu as envie de créer, avant tout, mais quand tu choisis, est-ce que tu choisis un propos, ou un gameplay, ou une expérience? Ou un ouais. Peu des deux.
Moi, c'est le gameplay, l'expérience avant tout. Le propos, il découle de l'envie. Ça arrive que je fasse des jeux qui disent un peu plus que d'autres. Mais globalement, c'est le gameplay, l'expérience de jeu, l'expérience du joueur qui définit ce que je vais faire. Et aussi le défi artistique personnel ou technique personnel aussi, vu que je développe... et que je fais le graphisme, c'est ça qui va amener la plupart du temps les expériences. Je suis pas nourri spécialement par les thématiques au départ. Ça en découle plus des idées qui viennent.
D'accord. Et en application, par exemple, le jeu de cette année pour la Game Jam, là, c'est ta démarche à la base, c'était juste une idée d'un gameplay expérimenté. Et...
Voilà. Donc juste pour expliquer le jeu que j'ai fait, c'est un jeu un peu bizarre. Donc le thème était mutation. Donc je pars vraiment la plupart du temps du thème assez fortement. Et là, typiquement, mutation, je commence à voir en tête des images d'Akira, de Tetsuo, pour ceux qui Tetsuo qui gonfle dans Akira, des choses comme ça. Et je me dis, comment on pourrait rendre ça de positif? Comment ça peut servir en gameplay d'avoir ce truc qui gonfle? Et donc, en fait, au final, j'ai des images qui viennent de ce truc qui gonfle sur lequel on pourrait monter. En fait, dans le jeu, on a ce personnage qui mute, qui va prendre des choses autour dans le décor pour grossir, et en fait un autre personnage qui va lui monter dessus pour atteindre le but. Et donc ça, c'est le gameplay. Et après, je définis le but. Quel but ça peut être? Finalement, là, c'est un contexte. Ça m'amusait d'imaginer que le mec qui monte dessus ait besoin à des moments de découper des trucs de celui qui est en train de muter, en fait. Je me suis dit, pour qu'il puisse découper, il faut qu'il ait une épée. Donc on est parti sur le Moyen-Âge, donc on est parti sur le fait que le truc qui mute puisse être un sort envoyé par un sorcier. Puis voilà, ça définit l'ensemble du jeu, qui finalement est un petit jeu. Si on y joue, ça dure 3/4 d'heure la session. Il y a pas plusieurs niveaux, c'est juste un grand niveau dans lequel on va essayer d'atteindre le haut de la tour. Et donc c'est vraiment ça la les calques qui s'enchaînent de réflexion, en fait. C'est comme ça que je fonctionne.
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir, après, de faire un peu... de réfléchir à la thématique que tu proposes sans faire forcément exprès, du coup.
Oui, bah après, il y a sûrement des choses qui reviennent. Enfin, j'ai pas envie que justement de me limiter à des choses parce que j'ai déjà exploré des trucs et essayé de trop m'analyser moi-même sur mes réflexes. Bah après, je fais tellement de jeux que c'est bon. Maintenant, on peut trouver des trucs un peu partout, des références un peu partout. Donc, je m'en inquiète pas. Mais j'ai pas trop envie de penser à ça.
Du coup, on se retrouve avec un peu deux personnes qui ont tendance à créer pour à partir du propos, à partir d'une intention de dire quelque chose, et puis peut-être deux personnes qui partent plus de l'expérience à vivre. Oui. Du coup,
oui, vraiment l'idée, c'était l'AVR, c'est quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Jusque-là, nous, ce qu'on a vu en VR, c'est des implantations de cuisine. Ça, c'est super joli, c'est vachement bien. Enfin, après, en termes de gameplay, on peut en parler. Mais oui,
qui fait ça?
Je sais pas qui fait ça. Il me semble que j'ai vu ça chez Mobile Pop. Enfin, peu importe. C'est pas très
intéressant.
Ouais, non, c'est voilà. Bon, ça peut être rigolo, mais enfin voilà, une fois qu'on a fait trois fois le tour de la cuisine et puis on peut même pas ouvrir les placards, bon bah voilà, c'est réglé quoi. On sait jamais si une table de chocolat. Enfin, bref. Toujours est-il que voilà, on peut visiter sa cuisine, un appartement témoin virtuel, ça c'est sympa. Après, par exemple, STX s'en sert pour la formation à la sécurité, donc se mettre dans des situations potentiellement dangereuses et puis former son personnel. Voilà, là faut pas toucher, là faut pas mettre son doigt et là t'as pas mis ton casque. Ok, ça c'est bien. Ensuite, on a des expériences de jeu qui existent, qui sont relativement passives. Donc ça, c'est super joli, on regarde un bel environnement, ok, super, mais on n'est toujours pas en train de jouer. Et puis, il reste encore les simulateurs, où là, clairement, on ne s'adresse pas à tout le monde. C'est-à-dire, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé des simulateurs, mais il faut quand même avoir le cœur bien accroché la plupart du temps. Il y en a qui sont limite dangereux si on n'est pas hyper aguerri. Bon, et puis après, je pense aux petits là devant. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que les simulateurs, clairement, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux, ils vont se retrouver éjectés, ils vont tomber, enfin voilà. Et puis je me dis, je vais dans une salle d'arcade, je vais essayer de traîner ma mamie. Bon bah mamie, si jamais on arrive à la traîner jusqu'au flipper, ça sera bien tout. Mamie, peut-être qu'elle a envie d'essayer la VR, peut-être qu'elle a envie de se sentir dans le coup, mamie, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que je lui propose? Et là, on a commencé à regarder un petit peu ce qui existait sur le marché du jeu vidéo, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment pas grand-chose. Ok, d'accord. Nous, on a envie de faire jouer les gens et on a envie que tout le monde soit embarqué avec nous. Je vais vous dire une hérésie, allez, c'est presque une confession. Moi, je ne suis pas une hardcore gameuse du tout. Je suis vraiment une casual. C'est mon mari, hein, le gamer à fond. Et je me suis dit, pour les gens comme moi, qu'est-ce qu'il y a? Ok, d'accord, il n'y a pas ça. Ok, et ben sur, avec quoi moi j'aurais envie de jouer? Avec quoi j'aurais envie de jouer avec mes enfants? Et finalement, les copains de mes enfants, ils voudraient jouer avec quoi? Si vraiment on leur proposait de mettre un casque, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Et là, on a commencé à réfléchir à des jeux, donc on en a fait un, mais on en a encore tout un tas en réserve, pour vraiment amener le maximum de gens à la VR, parce que pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui est très accessible vraiment dans le jeu. Le jeu, enfin, ce qu'on appelle le jeu, on fait quelque chose. Voilà, notre démarche, elle était plutôt comme ça.
Ouais, du coup, en fait, bon, pour l'indé, on a tendance à vraiment avoir cette espèce de profil auteur où on va chercher quelque chose pour nous-mêmes avant d'aller chercher pour les autres, un peu. Enfin, on a le sentiment que c'est ça qui ressort. Et c'est vrai que de tous les échanges qu'on a entre nous, entre indés et tout, c'est à chaque fois ce qui revient. On fait d'abord le jeu vraiment pour nous apporter quelque chose ou pour développer quelque chose de personnel. Et après, on essaie de le proposer aux autres. Et du coup, si on se faisait l'autocritique, justement en réfléchissant, qu'est-ce que ça nous apporte de bien et qu'est-ce que ça nous apporte de compliqué de faire des jeux autrement par rapport à quelque chose de plus classique?
On a un peu moins de recul hein, sur ce qu'on fait et en plus on est dans des bulles où on est avec des auteurs de jeux indépendants et du coup globalement on crée une espèce de bulle où nos envies semblent être des envies partagées par beaucoup de gens. C'est assez facile de se convaincre que ce qu'on fait peut être vraiment voulu et attendu par beaucoup de gens. Ça, c'est une des grosses difficultés principales. La difficulté, moi, c'est ce que je vois en premier. Après, moi, je considère pas que je fais que des jeux que j'aurais envie de jouer forcément. Je fais des jeux que j'ai envie de créer, ce qui est pour être différent. Et après, ceux que je pousse sont des jeux peut-être que j'aurais plus envie de jouer, ou en tout cas j'identifie des types de gens qui auraient envie d'y jouer. Donc c'est le risque, c'est peut-être plus quand on fait un seul jeu, et justement comme Antonin par exemple, il fait un jeu depuis je sais pas combien de temps il y a, 5 ans.
5 ans, ouais.
Voilà. Là, il doit y avoir d'autres thématiques qui s'ouvrent.
Ouais, bah la difficulté c'est de persévérer. C'est vrai que c'est pas évident. On se prend des gros murs dans la tronche. Surtout qu'on a fait aussi quelque chose de différent, c'est qu'on s'est lancé sans avoir toutes les compétences. Et du coup, il y a plein de choses en cours de route qu'on a dû apprendre. Par exemple, moi j'avais une formation de développeur, donc là-dessus j'ai aucun souci. Mais par contre, niveau game design, j'étais hyper débutant. Donc j'ai passé 2 ans à me former en testant des trucs. Et puis et après j'ai commencé à faire vraiment le jeu tel qu'il est aujourd'hui, quoi.
Si c'est le moment de l'autocontrition, j'ai aucune compétence en game design ou quoi que ce soit. Moi, je suis journaliste à la base, donc voilà. Et peut-être qu'effectivement, l'une des solutions pour éviter d'aller dans ce genre d'impasse, bah, c'est de faire confiance à ceux qui, bah, certains qui savent faire. Enfin, nous, dès qu'on a eu cette idée de concept, on avait vraiment un prototype émergent, pour ainsi dire, mais on s'est adressé à Fibre Tigre, que certains doivent connaître ici, et c'est lui qui a commencé à détailler les mécaniques de jeu, parce qu'effectivement, sinon, on peut très vite fantasmer quelque chose et se prendre le mur de la réalité, quoi, très, très simplement. Ouais.
Alors, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que, mine de rien, c'est aussi une force, parce qu'on fonctionne peut-être un peu plus à l'instinct, et qu'on n'a pas vraiment de schéma préconçu quand on ne vient pas de ce monde-là au départ, comme moi, ou qu'on ne l'a pas appris à l'école. Clairement, moi, je ne viens pas non plus d'une école de design. Dans le civil, je suis aussi professeure d'anglais. Rien à voir. Voilà. Et avant, j'étais directrice de la communication. Donc, clairement, il y a beaucoup de choses que j'ai fait avec mon background à moi, parce que je suis aussi musicienne. Donc, je me suis dit, moi, clairement, je vais prendre le son en charge. Je ne suis pas compositrice, ok, c'est pas grave. Je sais ce qui fonctionne, et j'ai appris à regarder un peu les réactions des gens face à tel ou tel stimuli. Alors voilà, quand on est parti de notre jeu et qu'on s'est dit on veut un jeu qui ne fasse pas peur, que tout le monde puisse enfourcher et garder le casque, c'est important de le garder, qu'est-ce que je vais mettre dans mon jeu comme son ? Pour que les gens se sentent à l'aise. Ok, on est dans une clairière, on a des petites montagnes. Eh ben tiens, on va mettre une cascade parce qu'on sait que le bruit de l'eau, c'est rassurant. On a des arbres, ok, il va y avoir des petits oiseaux. Donc on va se concentrer là-dessus. Et on ne va pas mettre une musique hyper stressante parce que déjà, il faut se concentrer sur garder l'équilibre. Donc déjà, ça, c'est un facteur de stress. Ok, très bien, on va se concentrer là-dessus. Et donc, c'est en travaillant à l'instinct, peut-être qu'on a notre force. Après, évidemment, vu qu'on n'a pas forcément toutes les formations qui vont avec, peut-être que oui, on va plus vite et qu'on fonctionne par une série d'échecs, mais au final, on y arrive quand même.
Ou pas, mais non, soyons positifs. À partir du principe qu'on y arrive une grande partie du temps quand même.
Juste pour en revenir sur le côté effectivement où on apprend en faisant, c'est effectivement un avantage et un défaut. Il faut réussir à définir un cadre suffisamment clair dès le départ avant de s'engager sur des productions, en tout cas sur des productions qui vont coûter de l'argent, c'est-à-dire des productions qui vont prendre du temps et qui vont engager d'aller chercher des personnes externes. Il faut réussir à définir un cadre qui nous permette de vivre et de pas s'exténuer, de pas se tuer à la tâche et de pas se ruiner tout simplement pendant qu'on le fait. La force du jeu vidéo, c'est que c'est assez extensible, c'est-à-dire qu'on peut commencer facilement à un petit niveau, un petit prototype, même sans graphisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé dès le départ d'avoir le compositeur, le graphiste, tout ça. On peut juste faire une petite petit prototype, voir si ça fonctionne, et là-dessus, commencer à faire évoluer cet aspect-là. Et justement, quand on n'a pas les compétences, ou les développer soi-même, ou aller chercher des gens qui vont l'avoir au moment où on en a besoin. Donc ça, c'est une des vraies forces quand du jeu vidéo globalement, et du jeu indé particulièrement, où on n'a pas forcément un délai précis de sortie, de construction de schéma. Après, le risque, c'est de faire un truc qui s'étend tout le temps, et qui n'en finit jamais. En fait, on voit pas mal de studios qui ont une envie très claire de ce qu'ils veulent faire, et du coup, vu que c'est toujours énorme et c'est toujours difficile à atteindre, c'est difficile de savoir quand s'arrêter, et justement si on n'a pas défini un cadre un peu plus tôt.
Il y a ce côté quand même qui revient tout le temps, où la critique qu'on fait du jeu indé, c'est la tendance à réinventer la roue très souvent, et puis à pas trop savoir cadrer, à avoir envie justement de suivre plutôt son instinct, le côté naïf aussi peut-être.
Voilà, c'est un défaut, mais c'est une force. Je sais pas, Antonin, si tu serais parti sur 5 ans, si tu savais que tu serais parti sur 5 ans en fait.
Je pensais que j'en avais pour un an de voilà. Maxi. Clairement, au début, je suis parti sur faire mon moteur perso, tout recoder, oh,
bravo,
tout recoder moi-même.
C'est l'erreur classique.
Ouais. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, quand même, Unity, ça a l'air bien.
Non, mais c'est fou, on le fait tous. Hein. Je sais pas ce qui nous prend. Alors, mais...
C'est formateur, mais il y a un moment, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie. Est-ce qu'on veut faire un moteur de jeu ou un jeu? On va à deux dans l'équipe, on va pas faire les deux.
Ouais, mais c'est pour ça, tous les studios indés qu'on connaît, tout le monde a commencé à deux, moi y compris, hein, mon studio, on a commencé à faire notre EOD Engine, qui est allé très loin. On était deux, on s'est dit, putain, on va faire mieux qu'Unreal, Unity et tout.
Ouais, voilà.
C'est sûr, en plus, on va y arriver, c'est obligé.
C'est marrant, cette innocence qu'on
a. Ouais, voilà, c'est naïf, c'est pour ça revient, moi, c'est un truc qui me reste un peu naïf, ouais.
D'ailleurs, pour parler de moteur de jeu, moi je travaille maintenant sur depuis 4 ans dans le jeu vidéo. Je travaille toujours sur un moteur de jeu qu'on considère pour débutants en fait, qui s'appelle Construct. Et à chaque fois que je montre ce que je fais là-dessus, des gens sont surpris. Mais en fait, le moteur n'a tellement aucune importance. Ça, c'est un truc. Dans vos discussions avec vos développeurs et tout ça, prenez-le en compte, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la rapidité à pouvoir créer, à itérer, à prototyper. Donc finalement, et puis même la capacité, c'est pas parce que vous faites un truc sur GameMaker, Construct, ou même, je sais plus comment il s'appelle, le truc pour les vraiment les enfants, sur Flash, enfin bon.
Scratch.
Voilà, Scratch. Peu importe, en fait, le prototype, vous êtes capable de le faire, et après, effectivement, vous pouvez avoir un développeur qui va faire la version définitive sur Unity, mais vous vous limitez pas à ça. Il y a pas besoin de se limiter. Le but, c'est de se donner des outils de création, des outils de prototypage. Donc, perdre son temps à créer l'outil qui va vous permettre de créer derrière, vous êtes déjà en train de perdre votre temps en fait. Vous n'êtes pas en train d'amener votre personnalité dans ce que vous faites.
Parce que là, c'est un débat qu'on a tous. Enfin, chez les Indiens, on n'est pas tous d'accord sur la façon de. On a tous notre façon de commencer les jeux. Il y en a pour qui ça va être la prouesse technique, parce que par rapport à leurs compétences, c'est plus ça qui les intéresse. Il y en a d'autres, c'est le propos. Il y en a, c'est le gameplay. Il y a plusieurs écoles qui ressortent comme ça. Et du coup, j'ai plus de l'école du gameplay.
Non, je suis plus l'école de se donner les outils. Créativité, en fait. Se mettre en place le plus rapidement possible des outils qui vont nous permettre de créer. Que ce soit de créer, même techniquement, enfin, je veux dire, il y a le développement, développer un moteur, c'est assez intéressant, mais développer des mécaniques de jeu complexes qui demandent, il y a suffisamment de richesse et de difficulté pour un développeur dans plein de types de prototypage à faire. Pour qu'il y ait de quoi s'amuser en développement. Donc c'est se donner les outils de création. Pour moi, c'est vraiment être dans un système le plus tôt possible. Je peux créer, je peux itérer. Si je fais un système, je fais très vite un système qui me permet de faire du level design rapidement, facilement. Voilà.
Je suis totalement d'accord pour le coup avec Rémi. Enfin, ce qui est vraiment, vraiment utile, c'est d'avoir rapidement un prototype. Et encore une fois, pour faire un petit retour d'expérience sur Eugenix, on avait vraiment quelque chose de très moche, sans DA, sans rien, etc. Mais le simple fait de pouvoir manipuler les gènes et de pouvoir voir quels étaient les effets quand on activait tel ou tel gène, ben voilà, on voyait que ça prenait au sein des joueurs, donc on s'est dit ben on va pouvoir le pousser, etc. Et en termes de prod, effectivement, là aussi, je suis d'accord, il faut vraiment pas se lancer bille en tête comme ça, en dire bah, allez, je vais créer comme ça et je vais essayer d'inventer la roue, comme on disait tout à l'heure, mais de se dire de quels outils je vais avoir besoin pour pouvoir faire en sorte que le concept initial puisse être traduit en termes de dev. Et là, par exemple, bah, un générateur de quêtes en fonction des gènes qu'on active, voilà, c'est tout simple. Mais une fois qu'on a cet outil-là, bah, voilà, on peut faire des centaines de contenus. Voilà.
Mais c'est obligé. Enfin, c'est une dérive qui est presque obligatoire, parce qu'à partir du moment où on est en mode auteur et on a envie de faire quelque chose, et même l'acte de créer en lui-même est central dans le fait de faire un jeu. C'est pas un besoin, c'est pas un métier, c'est presque ce pour quoi on le fait, c'est le faire. Mais du coup, c'est obligé qu'on dérive sur justement, si j'allais expérimenter une nouvelle façon de faire, si j'allais créer un nouvel outil, si c'est presque une dérive logique. On est obligé.
Bah, quelque part, ça crée une frustration, mais c'est ça qui donne envie d'avancer. C'est-à-dire que quand on a un premier niveau, on a commencé par un premier niveau jouable où on avait une sorte de planche, et c'était sur cette planche qu'il fallait marcher. Donc au départ, on n'avait rien. C'est-à-dire que l'environnement était totalement noir et on avait juste une texture marbre pour matérialiser la planche. C'est tout.
Une planche texture marbre.
Ouais, voilà. C'était une planche. Ben oui, on était parti du bois. Alors, première texture qui vient, tiens, marbre, tiens, c'est joli, tiens, sur du noir, c'est joli, c'est sympa. Et puis, on a du marbre dans l'entrée. Là, bon, bref, on a des délires des fois aussi. Et donc, on est parti de là et on s'est dit, tiens, c'est rigolo. Et si j'essaye de faire jouer quelqu'un tout de suite là, juste sur ce premier niveau où il n'y a que ça, qu'est-ce que ça fait? Et on s'est aperçu que ça marchait tout de suite. Juste le fait d'avoir ça, d'avoir cette... ça fait en gros, hein, sur du réel, ça ferait ça. Donc on peut mettre deux pieds côte à côte. Qu'est-ce que ça fait? Et on a vu nos premiers testeurs, nos enfants, mes parents, tant pis pour eux, qui ont commencé direct, clac, à mettre les bras comme ça. On s'est dit, c'est bon. Maintenant, on peut avancer parce que ça marche. Okay. Et donc, il faut réussir à gérer la frustration interne d'avoir tout de suite son paysage, ses petits oiseaux, le vent et le bon bruit de cascade, parce que c'est important que ce soit le bon bruit de cascade. Sinon, c'est pas réaliste. Eh bien oui, c'est important. Il faut réussir à tenir cette frustration et à se dire qu'on ne fera pas tout d'un coup et qu'il faut avancer pas à pas. Donc le but, c'est vraiment de rendre le jeu de plus en plus jouable et d'ajouter les fonctionnalités petit à petit. On a une idée, on intègre, on voit si ça marche. Ok, ça marche, on continue.
Ça me rappelle que c'est la discussion que j'ai toujours avec mes étudiants. Du coup, je donne des cours techniques et de game design. Ils ont tous envie de faire des belles animations très tôt. C'est ça que souvent ils y vont pour ça. Bouger un personnage qui saute et qui a de belles animations. Sauf qu'en fait, la bataille, c'est justement pour leur faire garder un truc moche le plus longtemps possible. Parce que ça nous permet d'identifier si c'est fun ou pas, en fait. Un jeu moche, mais auquel on a envie de jouer, c'est gagné. Alors qu'un jeu très beau et auquel on joue juste pour faire bouger le personnage et tout, ça peut donner l'impression que c'est un bon jeu, alors qu'en fait c'est juste un beau jeu. Donc garder le plus longtemps possible cet état de prototypage et d'être sûr que c'est vraiment notre mécanique de jeu qui fait le fun, le plaisir de jeu, c'est assez important. Garder le plus longtemps possible.
Vu l'heure, j'aimerais bien qu'on essaie de passer aux questions, s'il y en a, pour essayer justement d'échanger un peu avec vous, justement sur les questions. Si c'est une première personne.
Puis on verra. Bonjour. Moi, j'ai une question assez concrète à poser quand on fait d'autres jeux, c'est la thune. Parce que vous parliez de Enterrement mon amour tout à l'heure. Je sais que Florent Morin, donc de The Pixel Hunt, il a fait une coproduction avec Arte. Quand on fait des jeux indés en dehors des circuits habituels, j'imagine qu'il faut aller chercher du pognon ailleurs que là où on le trouve habituellement.
Je pense que du coup, on va pouvoir peut-être tous répondre en une phrase parce qu'on a tous des avis, peut-être des méthodes, des réponses différentes. Mais tu peux peut-être commencer parce que tu connais Arte un peu.
Oui, pour être aussi transparent là-dessus, on est aussi en coproduction sur un autre jeu qui s'appelle sur l'œuvre de Frankenstein, donc en coproduction avec Arte. Donc pour répondre à votre question, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des éditeurs alternatifs. Au fur et à mesure que les publics changent aussi, même au niveau de l'édition, ça évolue aussi. Et donc il y a des gens qui sont capables de prendre des risques pour ce type de production. Ça existe aussi, quoi. Et deuxième chose, il y a, alors ça c'est quand on reste dans le circuit entre guillemets traditionnel, et après il y a la Mole Industria que j'évoquais tout à l'heure, qui fait des jeux engagés. Bah, eux c'est des jeux manifestes, mais ils veulent pas entrer dans un circuit économique, etc. Mais ils l'indiquent. Enfin, et en termes de production, c'est des jeux qui sont prototypés. On rejoint ce qu'on disait tout à l'heure très rapidement, parce que c'est comme un pamphlet interactif en fait. Donc il y a cette évolution à la fois du jeu commercial entre guillemets, et il y a toujours cette possibilité de faire du jeu pour le jeu. Voilà. Donc voilà, il y a une diversité en tout cas pour le joueur au final, quoi.
Je pense qu'on a tous des profils différents pour réussir à gagner de l'argent tout en gardant cette liberté de création. Moi, je viens du graphisme au départ, donc je fais toujours des pitches de graphisme. Comme je disais, je donne des cours, tout simplement. C'est pas pour tout le monde, faut aimer cet aspect-là. Et de la prestation plus technique, ça veut dire sur des jeux, arriver à des moments, quelqu'un a besoin d'aide sur les jeux, que ce soit de l'aide technique ou une aide un peu plus globale, graphisme, game design et technique, sur les choses comme ça, il y a moyen de faire de la prestation. Donc ça, c'est quand on est prêt à le faire. Moi, je suis pas engagé dans une logique de studio, en tout cas pas encore. L'année prochaine, c'est possible qu'on parte sur un jeu justement plus gros ou on sera payé pour le faire de manière un peu plus naturelle, mais il faut trouver son propre. C'est les endroits où on est prêt à faire des petites concessions. Il faut aussi prendre là où ça rapporte suffisamment pour se libérer du temps derrière. Enfin, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne.
En ce qui nous concerne, nous, on a un studio qui a un an. Donc, pour l'instant, dire qu'on vit de notre activité, non, il ne faut pas non plus se leurrer. On a tous les deux un travail à temps plein à côté. Donc, concrètement, on a deux temps plein. C'est pas grave parce que notre premier jeu, il est sur l'étagère et il est vendu. Nous, on a choisi un modèle B2B, donc de vendre aux professionnels et de faire un jeu qui se vende rapidement. Ça ne nous empêche pas après d'apporter des améliorations, des correctifs. Et puis, du coup, on a décidé, dans un premier temps, de ne pas développer un autre jeu, mais développer de la saisonnalité sur notre jeu pour avoir une offre complémentaire. Voilà, donc, concrètement, là, notre jeu, il se passe dans un cadre naturel, blabla. On a fait une version Halloween, voilà, avec des chauves-souris à la place des piou-piou, enfin voilà, un truc qui soit un petit peu différent, et puis on fera une version pour l'hiver et une version pour l'été qui sera sur une plage. Voilà, donc dans un premier temps, on va capitaliser sur ce jeu-là, et puis dès qu'on pourra, qu'on aura un peu de force de développement, on va faire le multijoueur, mais on a décidé d'avoir une croissance organique, et de commencer à vendre, à faire rentrer des capitaux, et puis pourquoi pas faire de la presta, parce qu'on s'aperçoit en démo que notre jeu y plaît, donc on peut aussi très bien arriver sur site et puis louer notre jeu avec opérateur en événementiel. Donc chacun a un petit peu son modèle, hein, vraiment, c'est pour l'instant on avance comme ça.
De notre côté, on n'avait aucune réflexion au niveau financier à la base. Du coup, moi, j'essayais d'être à temps plein sur le jeu pour vraiment que ça avance assez vite. Et à côté, de temps en temps, je faisais un site internet pour un client. Et puis, pendant certaines périodes, j'ai du RSA, qui est aussi une source de financement, d'une certaine manière.
Oui, l'État est un principal actionnaire de la création.
Ouais, complètement.
Et heureusement, quand même.
C'est vrai que ça ferme pas mal de portes d'avoir un zéro budget pendant toute la production. Et d' ailleurs, récemment, on vient de signer avec un éditeur qui est un autre studio indépendant, donc tu es vraiment dans un esprit qui nous correspond, nous convient. Et c'est vrai que ça va nous permettre de finir le jeu proprement, ne serait-ce que pour payer un sound designer ou un musicien pour faire l'environnement sonore du jeu.
Heureusement qu'on a l'entraide.
C'est très important.
Ouais. Et du coup, moi aussi pour mon studio, on est sur prestation et on paye entièrement nos jeux nous-mêmes. Donc la moitié de notre budget à l'année qu'on gagne en prestations extérieures, passe dans le jeu vidéo, donc on doit bosser la moitié de notre temps pour financer l'autre sur nos propres produits. Et on est beaucoup à faire comme ça, dans le milieu, en tout cas ici, dans notre milieu à nous, qu'on côtoie avec le cluster de Atlant Games, donc tous les indés un peu de l'Ouest, on est beaucoup à voir ce profil-là. Peut-être d'autres questions ? Il y en a pas mal, on va essayer de répondre plus vite.
Bonjour, juste pour continuer sur l'argent et le crowdfunding. C'est une piste, c'est pour lancer un jeu qui est déjà bien avancé, pour finir le développement, une fois qu'on peut en faire un petit peu la publicité,
Le truc, c'est qu'il faut imaginer qu'il n'y a pas de solution miracle et le crowdfunding est une solution qui n'est pas du tout un miracle. Un des premiers trucs que nous, on a vu d'expérience personnelle, c'est que l'investissement est énorme et que en fait, quand tu commences une prod, c'est justement que tu n'as pas d'argent, donc tu ne peux pas investir et tu ne peux pas forcément investir dans une source qui va te rapporter. Et pas sûr. Parce que c'est pas certain de réussir à avoir suffisamment. Pour une idée, en fait, dans un bon crowdfunding, si on veut vraiment toucher, faire de la qualité, toucher du monde et pas faire une arnaque, nous, on s'est rendu compte que 40% de la somme qu'on pouvait récolter allait directement à la production du crowdfunding en lui-même. En plus des 8% qu'on donne à la plateforme, de toutes les contreparties et tout ça, voilà, ça fait qu'on va pas retirer une somme qui soit vraiment intéressante pour une production. Enfin, après, du coup, toi, tu disais que tu avais une autre expérience.
Non, enfin, moi, j'ai pas fait de crowdfunding, mais une des raisons pour lesquelles, enfin, on est sceptique, c'est que, en fait, c'est le rapport à la communauté qui peut être problématique, parce que quand on finance comme ça, sur le type de plateforme qu'on connaît, hein, type Kickstarter, on a un peu l'impression que le joueur devient un peu actionnaire du jeu, et donc on va avoir des commentaires, donc oui, mais j'ai investi dans votre jeu, donc je veux que ce jeu ressemble à ça. Et en fait, il y a plein de modèles alternatifs, et y compris dans la grosse industrie, parce qu'il y a un studio comme Amplitude qui investit avec sa communauté, mais qui a toujours refusé le crowdfunding, par exemple. Mais il y a d'autres systèmes type de patronage, où là on est plus sur du micro-don et on finance pas massivement une production, mais on donne les moyens aux développeurs de créer. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment une voie super intéressante. Il y a plein de modalités différentes, mais en tout cas, les levées massives comme ça sur Kickstarter, c'est vrai que maintenant, il y a pas mal de devs qui en sont revenus, malheureusement. Ouais.
Bon, ouais, après, il y a aussi le fait que, évidemment, là. Non mais dans tous les cas on est beaucoup trop, donc c'est compliqué.
Je suis désolé, on va rester un peu dans le thème de l'argent, mais c'est on voyait que c'était un peu il y a une dichotomie entre genre les jeux à grand public, enfin à très large public, genre les Call of Duty, enfin pour ne pas les citer, mais quand on voit des cartons autant au niveau impact culturel que financier qu'ont pu avoir des gens comme Toby Fox avec Undertale ou genre Scott Cawthon avec Five Nights at Freddy's, est-ce que finalement genre la niche serait pas aussi financièrement viable quelque part?
Là, c'est la loterie. Ça veut dire que faut se baser sur les succès, les quelques succès pour définir une possibilité. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça peut arriver. Enfin, je veux dire, personne n'a l'abri d'un succès. Mais ce serait comme gagner au loto.
C'est le tube de l'été.
Ouais. Et puis si on compare, si on réfléchit un peu et qu'on compare les deux méthodes, il y a une méthode qui est assurée, c'est je dépense un tiers de mon budget en publicité, je suis sûr de vendre mon jeu. Si j'espère faire un succès indé, j'ai une chance sur je sais pas combien, mais voilà, si on regarde les statistiques, ça doit pas être beaucoup.
De moins en moins chaque année, vu qu'il y a de plus en plus de trucs qui sortent.
Donc, oui, en proportion, ouais. Évidemment. Quoi.
C'est pour ça qu'on est tous assez vigilants à financer en amont. Et s'il y a un succès, effectivement, ça finance facilement les suivants, mais globalement, de ne pas se mettre en danger pendant la création.
Je voulais savoir, en tant que créateur indépendant ou créateur alternatif, est-ce que la notion même d'accessibilité est quelque chose qui vous importe, sachant qu'un ordinateur a un coût important, une console a un coût important, tout le monde n'a pas accès à ces médiums, ces médias, est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça ?
Alors, nous, on a résolu la question autrement. Justement, on parlait de la VR de salon, qui en plus est extrêmement coûteuse. Nous, on distribue à des lieux. Par exemple, nous, on est en Vendée. On a vendu notre jeu à CityZeb, donc c'est un parc d'attractions indoor pour enfants. Donc, c'est eux qui monétisent après et qui monétisent à la partie. Ça veut dire qu'on n'a absolument pas besoin de s'équiper. On vient sur un lieu, on utilise les installations et puis c'est fini. Donc l'idée, c'est vraiment de le rendre comme ça, hyper accessible.
Bon, de notre côté, c'était pas forcément prévu à la base, mais notre jeu reste très accessible dans le sens où il est très peu coûteux en performance. Donc avec un ordinateur d'il y a 10 ans, on peut y jouer. Et à côté de ça aussi...
Bravo.
Merci. Et à côté de ça, on tente pas mal autour de chez nous pour l'instant dans des médiathèques où les jeux sont proposés aux enfants une fois par semaine.
Oui, bonjour. J'avais une question. Durant le processus de création, est-ce que vous vous appuyez régulièrement, par exemple, sur un petit groupe de bêta-testeurs pour essayer un peu de valider différentes étapes et puis d'avoir un retour un peu interactif que vous prenez en compte d'une certaine manière pour essayer de converger vers un produit fini ou est-ce que ça se fait en deux stades? Le premier, vous développez avec une certaine idée et puis une fois que c'est relativement mûr, vous passez en fait la balle à des testeurs.
Du coup, oui, c'est un process assez utilisé et c'est essentiel. Sur un titre comme Eugenics, on est en pleine phase de playtest, donc on reçoit effectivement tous les feedbacks. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on veut aussi que les gens soient acteurs en fait en termes de gameplay, qu'ils puissent proposer des choses aussi, parce que c'est un jeu un peu à tiroir où on peut mettre plein de choses. Donc on veut aussi que les joueurs soient actifs. Donc c'est aussi la spécificité de notre concept, c'est qu'à la fois on peut recevoir des feedbacks techniques, techniquement, s'il y a un bug, le recenser, en termes de philosophie, parce qu'il y a énormément de textes, donc des choses qui marchent et marchent moins bien, et en même temps la carotte, entre guillemets, c'est aussi de leur permettre d'être acteurs du processus de création. Voilà.
Vite fait, c'est vrai que nous on a une approche très communautaire depuis le début et on va vraiment encourager les joueurs à nous faire des retours et on s'est très vite entouré d'un petit groupe de testeurs et là depuis 6-7 mois on est en alpha test et du coup tous les jours on est sur Discord avec les joueurs qui viennent nous faire part de rapports de bugs, de suggestions pour améliorer et on prend ça en compte.
Alors nous pour ce qui nous concerne en fait le testing il s'est fait quasiment du premier proto jouable, c'est-à-dire au bout de quelques jours, avec tous les gens qui nous sont tombés sous la main. On travaille de la maison, donc tous les gens qu'on avait qui venaient prendre l'apéro, machin, truc, clac, clac, tiens, viens par là. Et en fait, on l'a fait ensuite tester sur des sites. Et surtout, on aime nous retourner, comme on fait aujourd'hui, pour présenter le jeu et puis voir si oui, on écoute les suggestions, on regarde ce que ça fait. Voilà.
Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps pour une dernière question. Ou vraiment très très vite. Non, pas du tout. Donc si vous avez peut-être une question rapide à la fin, vous pouvez peut-être venir nous voir. On peut prendre 5 minutes pour répondre. Eh bien, merci beaucoup.